Bonjour et bienvenue. Les humoristes que vous allez entendre aujourd'hui réalisaient un humour d'un autre temps. Ils avaient quasiment une âme de poète et surtout une plume bien aiguisée pour nous rapporter leur vision de l'actualité, à peine détournée. On les appelait les chansonniers. Pourquoi chansonniers alors qu'ils parlent, qu'ils égratignent et le plus souvent même sans une note de musique ? La réponse à cette question se trouve dans l'histoire, celle de la chanson et de l'humour, car il y a un siècle, les comiques chantaient et le style a bien sûr évolué. Ce qui m'a fasciné dans le monde des chansonniers, c'est donc la plume de ces humoristes. Ils sont proches des écrivains ou des journalistes, car à vivre sur l'actualité, à l'image d'un Pierre Douglas qui a été journaliste. Il présentait les journaux à la radio, à la télévision avant de venir à la scène. Parmi ceux qui seront dans cette émission, il y a Maurice Orgue, Jean Amadou et même une femme qui s'est imposée dans ce monde un peu macho, Anne-Marie Carrière. Mais je vais laisser ma place à ces humoristes. On va débuter avec Edmond Meunier, rencontré en 1992 au Caveau de la République à Paris. Edmond Meunier, c'était l'un des plus anciens de ces chansonniers. Il avait près de 80 ans lorsqu'il présentait son tour de chant encore au Caveau de la République. Après 50 ans de métier, il aimait encore parler de cette discipline particulière dans le domaine du rire.
Je vais vous expliquer comment on est du verbe naître dans ce métier de chansonnier. Eh bien, au lycée, si vous voulez, en faisant des chansons sur les profs pour faire rigoler les copains. C'est ça au fond, le chansonnier. Mmh. On commence un peu comme ça. On a besoin d'un public. Bon, alors on a les copains de la classe. On a besoin d'une tête de turc. À ce moment-là, c'est pas des politiciens, c'est les profs. Et ça paraît très simple de prendre ça, et puis après tout, c'est une chanson qu'on fait sur un prof, c'est une chanson satirique. Bon, bah, quand on a décidé de faire autre chose et d'en faire un petit peu sa profession, eh bien à ce moment-là, les profs, on les oublie, puis ça devient les hommes politiques, ou l'entourage, ou la vie normale, la vie de tous les jours. Il n'y a pas que des politiciens à mettre en boîte, de politiciens ou artistes ou gens célèbres. Il y a aussi les travers de la vie quotidienne à mettre en chanson aussi.
Une chanson qui traite de l'influence de la télévision sur notre comportement physiologique. On a constaté que, dans les foyers français, la consommation d'eau brusquement augmentait. Vers les 20h25, moment où la télé, sur les écrans diffuse la publicité. Aux quatre coins du pays, en 2 minutes à peine, les compteurs d'eau se mettent à tourner, à perdre haleine. Et de se demander, chaque soir à la même heure, ce que peuvent faire les Français, quasiment tous en cœur, ils vont pisser pendant l'Ajax ammoniaqué entre Boursin et Rexona. Voyez, ça sert au moins à ça. Ils font pipi pendant que danse la vache qui rit et tire la chaîne avec ardeur. C'est ce qui fait tourner les compteurs. Fallait quand même que vous soyez au courant.
Quand j'ai commencé dans ce métier, presque tout le monde chantait. Hein. On en est venu à beaucoup bavarder, à beaucoup faire de blabla, parce que c'est quand même plus facile de ne parler sans faire de chansons ou de monologues, oui. Sans rimer, sans être tenu par le cadre de la musique et de la rime. Mais la mode était, il y a quelques... Remarquez, ça a tenu longtemps. Hein. Il y a qu'à peu près une vingtaine d'années qu'on se met à bavarder beaucoup. Mais avant, tous les chansonniers chantaient plus ou moins bien. Ça n'avait peut-être aucune importance, mais on s'exprimait en chanson.
Les archives du rire.
Aujourd'hui, ce petit lieu s'appelle le République. Et bien avant, il s'appelait le Caveau de la République, au numéro 1, boulevard Saint-Martin à Paris. Une ferme nommée La Vacherie à la base. Martial Carré était le directeur du caveau de la République. Lorsque je l'ai rencontré en 1992, il nous parle de ce lieu et de son histoire.
À l'origine, on consommait dans la salle. Et c'était donc un petit peu la formule du café-théâtre. Et de même que le lieu ressemble un petit peu à ce qu'on trouve au café-théâtre. Hein, c'est-à-dire une salle avec une géométrie assez particulière.
Allez, on va chanter les statistiques. Une famille sur quatre trace sa petite auto. Quatre Français sur six ont aussi un frigo. Un ménage sur trois a son aspirateur. Quatre Français sur six ont un robot mixeur. C'est ça le bonheur. Youpi. Trois citoyens sur dix ont une rôtissoire. Quatre Français sur cinq possèdent un rasoir. Sept habitants sur douze ont un téléviseur. Et deux couples sur sept un grill toast éjecteur. C'est ça le bonheur. Youpi. Il y a dans chaque maison parfois deux moulinettes. Et sous un toit sur quatre, il y a un moule à gaufrets.
Au caveau de la République, il y a toujours eu des chansonniers. Et puis, il y avait aussi des gens qui venaient un petit peu de l'extérieur, qui étaient un petit peu les invités des chansonniers. Après, dans les années 50, où les chansonniers étaient vraiment en force, chansonniers dans le sens politique. Hein, c'était un petit peu l'image de marque des chansonniers à cette époque-là. C'est-à-dire un chansonnier qui traitait uniquement l'actualité. Parce que finalement, quand on revient à l'époque du Chat Noir, qui était quand même une grande époque pour les chansonniers, les genres étaient un petit peu plus divers. Et dans notre époque, Brassens, par exemple, était peut-être celui qui était le plus chansonnier dans l'esprit des poètes du Chat Noir, des chansonniers du Chat Noir. Alors ici, au caveau de la République, depuis que je suis là, j'ai repris un petit peu cette tradition, c'est-à-dire... Il y a toujours des gens qui traitent l'actualité politique, comme Laurent Ruquier, par exemple, Pierre Douglas ou Edmond Meunier, qui est un ancien du grenier de Montmartre. Et puis, il y a aussi les gens qui viennent du Café Théâtre ou qui ont débuté ici, qui sont partis au Café Théâtre après, comme Florence Brunold. Et puis, il y a des gens qui représentent peut-être un petit peu plus la couleur cabaret, musical, comme Serge.
Quelqu'un qui me fascinait par son écriture, c'était Maurice Orgue. À ses débuts, la langue française avait toute son importance. Il fallait un bon talent d'écriture pour espérer entrer dans cette famille de chansonniers. Des sketchs comme « Le mec à son volant » durent plus de 10 minutes et en vers, s'il vous plaît. Et c'était là l'une des spécialités de certains chansonniers, dont Maurice Orgue. Probablement un héritage de ceux qui chantaient.
Vous savez, effectivement, la profession de chansonnier a subi des transformations, comme toutes les professions ou tous les arts. Moi, je suis un enfant de mes prédécesseurs, que j'admirais beaucoup, M. René Dorin, M. Paul Colline, M. Jean Blanc, M. Souplex, qui, effectivement, ne parlaient qu'en vers. Mais quelquefois en vers, pas si drôle que ça. La seule musique des vers faisait sourire les gens qui étaient dans la salle et on n'avait pas besoin de ces effets coup de poing comme on a besoin maintenant. Et moi, à ma façon, j'ai repris un peu cette tradition en y apportant, je l'espère, quelque chose. C'est-à-dire que mes vers sont devenus beaucoup plus percutants et je suis arrivé à avoir des monologues en alexandrin. Vous savez, des alexandrins de pacotille, hein, c'est pas du Corneille ni du Baudelaire. Mais enfin, c'était des alexandrins qui avaient le don, tous les quatre vers ou tous les six vers, d'arracher un éclat de rire au public. Et il faut dire que la rançon de tout ça, la rançon bénéfique, c'est que le vers de 12 pieds, par le fait de sa cadence, provoque des effets de rire qu'on n'obtient pas en parlant en prose. Parce que le seul fait d'une rime qui précède et qui fait attendre la deuxième, quand la deuxième arrive, il y a la moitié de la salle qui la reçoit en pleine poire, la deuxième moitié de la salle qui l'a devinée, et ça fait un effet comique.
Messieurs, à ma mine confuse, vous jugerez de mon remords. Pour une fois, je m'en excuse, j'en veux à notre sexe fort. Mesdames, vos yeux le laissent voir, certains ne pensent à mon propos. Est-il possible d'en vouloir à l'homme qui est sans défaut? Mais là réside le problème, mesdames. Vous l'ignorez vous-même, ce défaut de l'homme, car il l'a justement quand vous n'êtes pas là. C'est le défaut d'imagination en matière de conversation. Car c'est navrant en tant que vrai, la statistique l'a confirmé. Nous n'avons plus que deux sujets susceptibles de nous charmer. Oui, le fait est inconcevable, en l'an 1960, dès que des hommes se trouvent à table, sur le trottoir, devant une menthe, deux seules matières réchauffent leurs âmes et font les frais de leurs paroles, c'est les bagnoles et les femmes.
Notre secret, à nous, les chansonniers, c'est de prendre un événement extrêmement banal, dans lequel personne n'a rien vu de comique, et de dire en quoi cet événement est comique. C'est ça notre fierté quand on y arrive. C'est de démontrer que les choses qu'on lit dans le journal ont un revers comique. Et c'est à nous de le trouver et de le faire passer dans la salle.
Il y a certaines règles alors de chansonnier.
Mais il y a, les règles, c'est d'abord l'authenticité, c'est la vérité. Ce qu'il faut, c'est que les événements dont nous parlons aient effectivement eu lieu. Il faut qu'on l'ait lu ou le matin dans le journal, ou qu'on l'ait entendu à la radio ou à la télé, ou même qu'on l'ait lu un mois ou deux mois avant. Mais on est obligé de travailler sur des choses existantes. Nous avons une atmosphère de vérité dans nos tours de chant.
Quand on parle de chansonnier, est-ce qu'on peut dire que Coluche était aussi un peu un chansonnier?
Oh ben absolument. Ça, il a ouvert des voies que nous n'osions pas ouvrir, c'est-à-dire, bon, il a utilisé des mots que, avec un tempérament différent, ce qui était extraordinaire chez Coluche, c'était son tempérament qui faisait tout passer. Mais nous avons eu, dans notre profession, des chansonniers qui étaient crus. Jean Rigaud ne reculait pas devant les mots et devant les plaisanteries un peu salaces, Champy non plus. Il y a toujours eu des chansonniers de genres différents. Mais ce qu'il n'y a plus, et ce qu'il y avait à l'époque, c'est ce qu'on appelait, d'ailleurs c'est comme ça qu'on nous annonçait au début, quand j'ai débuté il y a bien longtemps, des poètes chansonniers on appelait. C'est-à-dire qu'entre deux satires, on pouvait très bien faire une chanson tendre, souriante, sur la nature, sur tout ce qu'on voulait. Ça entrait dans le cadre de la représentation et de ce que les gens attendaient. Mais autrement, des chansonniers rudes, il y en a toujours eu. Ça, il y en a toujours eu. Mais Coluche, c'est un vrai chansonnier, ça c'est sûr.
En 1992, au caveau de la République, il y a 25 ans, je me trouvais dans ce haut lieu tenu par des chansonniers. On me dit, faudrait aller interviewer notre nouveau là, c'est un jeune qui promet et qui a une plume absolument incroyable. Il était déjà engagé à la radio depuis quelque temps, il travaillait notamment avec Jacques Maillot et Jean Amadou. Je me trouve assis en face de ce gars qui, quelques mois plus tard, alignera les succès aussi bien sur scène que dans les médias, son nom, Laurent Ruquier.
Parfois, le mot chansonnier n'est pas très, très bien utilisé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que au mot chansonnier, ça colle le mot vieillot. Alors, j'essaie de prouver le contraire.
En tennis, alors l'année 80 aurait été une surprise. Si on s'attendait à ce que les Français remportent la Coupe des Villes, je dois dire. Bon, on savait que c'était Noah qui les entraînait, les mecs. On disait, bon, quoi, ils vont mieux chanter, c'est tout. Eh ben non, ils ont mieux joué, c'est qu'on a. Hein. Vous savez que depuis que l'équipe de Saga Africa a remporté la Coupe Davis, la bande à Basile s'est inscrite pour Roland Garros. Hein.
J'ai débuté sur scène ici, au caveau de la République. J'avais jamais fait de scène auparavant, mais j'avais fait de la radio en revanche. Je venais de la radio, des radios locales, du Havre, puisque je suis normand. Non, je n'avais jamais fait de scène. Je faisais juste des animations radio. Et puis petit à petit, j'ai effectivement commencé à commenter l'actualité dans une émission hebdomadaire sur Radio France Normandie-Rouen. Et c'est là d'ailleurs que Jacques Maillot m'a contacté, m'a fait venir sur Paris. Et puis ça s'est enchaîné ensuite ici au caveau de la République. Mais mes premiers pas sur scène, c'est vraiment ici.
Vous lui aviez envoyé des textes à Jacques Maillot, non ?
Exactement. Ouais, j'écrivais des textes. On m'avait dit... quand on raconte ça, les gens disent toujours « c'est pas vrai » quand on envoie des textes aux vedettes ou aux artistes et ils ne répondent pas. Preuve du contraire, c'est que Jacques Maillot, lui, m'a répondu. Même chose chez Jacques Martin. Quand je suis rentré à la télévision avec Jacques Martin, il ne me connaissait pas non plus et c'est un courrier que j'avais envoyé et il m'a donné un rendez-vous sur courrier. Donc comme quoi, ça existe encore, ces choses-là.
Je suis plutôt pour, moi, les 35 heures. Bon, évidemment, quand on a un boulot qui plaît, c'est con comme mesure. Mais pour ceux qui ont un boulot difficile, pourquoi pas. Le seul truc, c'est que c'est incompatible, quand même, avec ce que veulent les socialistes au niveau des retraites. Puisqu'ils nous disent qu'ils veulent qu'on cotise plus longtemps. En gros, on va bosser seulement 4 jours par semaine, mais jusqu'à 99 ans.
Les archives du rire.
Laurent Ruquier remarquait donc, il le disait, par Jacques Maillot. Directeur du théâtre des Deux Ânes à Paris. Avec Jacques Maillot, on parlait de cette spécialité typiquement française. Les humoristes qui se gaussent de la politique, c'est non seulement une marque de fabrique de l'Hexagone, mais c'est typiquement parisien. Jacques Maillot.
Très souvent, les chansonniers, c'est un esprit extrêmement parisien. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Jean Rigaud était une grande vedette parisienne. C'était une immense vedette. Jean Rigaud était millionnaire du disque 5 fois. Donc, plus que Coluche. C'est énorme. Et Jean Rigaud avait une clientèle parisienne. En province, il n'était pas extrêmement prisé. Donc, je crois que c'est un esprit, effectivement, mais qui s'est énormément vulgarisé. La preuve, c'est que quand on vient à Genève, à Lausanne, ou qu'on va à Bruxelles, il y a énormément de monde qui vient nous voir.
Jean Rigaud, le chansonnier typiquement parisien.
Remarquez que moi, et c'est une justice à me rendre, mesdames et messieurs, je ne me suis jamais foutu de la gueule des Russes quand ils ont loupé la Lune pour la première fois. Jamais. On peut toujours louper la Lune une fois. Oui, madame, on peut toujours louper la Lune une fois. Moi, ça m'est même arrivé 2 fois. Et des belles filles, hein.
Ah. J'aime beaucoup travailler à chaud sur l'actualité. Je crois que c'est ce qui fait justement le charme des théâtres de chansonniers, c'est-à-dire qu'on y entend ce qu'on n'entend pas ailleurs. Les gens sont en prise directe avec l'actualité du moment. Et je crois que c'est ce que viennent chercher les spectateurs qui viennent dans nos maisons.
Il est vrai que sur ce plan-là, nous vivons une époque particulièrement exceptionnelle. C'est un vent qui nous est venu d'Italie, on en récolte aujourd'hui les fruits. Et pour se rendre compte de cette richesse d'actualité, vous savez, il y a un réflexe très simple qui consiste à ouvrir son récepteur de télévision le soir sur le coup de 20h. Et là, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit en général un homme politique qui est mis en examen pour trafic d'influence, qui est interviewé par un journaliste vedette qui est lui mis en examen pour abus de biens sociaux. Et où se trouve le président directeur général de la chaîne concernée? En garde à vue au tribunal d'à côté.
Après Jacques Maillot, rencontre avec Jean Amadou. Humoriste français, journaliste, satiriste, écrivain, chroniqueur radio, même chansonnier, un mot qu'il n'aimait pas tellement. Lui, il se considérait plutôt comme quelqu'un qui fait sourire ou simplement un saltimbanque ou un adepte de la mauvaise foi. Parfois même acteur, il avait commencé par la comédie, il aurait voulu être comédien, mais ça ne s'est pas donné comme ça. Jean Amadou était un grand bosseur et un lecteur passionné.
Je suis un dévoreur de tout. J'ai lu énormément dans ma vie. Je lis beaucoup, je lis très vite. Je lis maintenant très vite parce que je suis obligé de m'astreindre à lire vite. Mais dès que je suis en vacances, ce qui m'arrive rarement, je lis pour mon plaisir. Et là, je lis lentement quand je lis des choses. Mais c'est vrai que j'ai dévoré beaucoup, beaucoup de livres dans ma vie. Je crois qu'il en reste quelque chose. Et je suis un lecteur... J'aime les vieux papiers aussi, c'est vrai. Je lis l'illustration, l'assiette au beurre, je lis des vieux bouquins, des vieux grimoires, des vieilles revues. J'adore ça, c'est vrai. Et puis quelques de temps en temps aussi, ça fait pas plus de mal de lire une ou deux pages d'Anatole France. Ça fait du bien quand même. Ça nettoie, ça lave un peu, ça remet les choses en place.
Je ne sais pas si vous êtes baladé l'été dernier, au mois de juillet, au mois d'août, sur les routes de France, mais les barrages que les paysans avaient faits quand ils ont manifesté, ça a été quelque chose. Hein. Moi, vous savez, on m'a cité le cas d'une famille d'Allemands qui allait en vacances en Espagne, mais comme tous les ans. Ils ont passé la frontière à Strasbourg le 15 juillet, 3 semaines pour atteindre Perpignan quand même, vous voyez, de barrage en barrage. Ils n'en ont pas loupé, hein, c'est pas difficile. En arrivant au Pertus, à la frontière espagnole, le père, un homme d'une 60aine d'années à peu près, les cheveux gris, vous voyez, complètement écœuré, qui conduisait la Volkswagen, a dit « Vous auriez fait ça en 40 ?» On passait jamais, hein.
Moi, quand je dis que j'aime la France, j'aime ce pays parce que c'est un pays de grande diversité et que je le connais admirablement bien. Je me suis traîné dans la France pendant très longtemps, j'ai fait 20 tours de France et donc... avec 20 tours de France cycliste et quelques galas, je connais ce pays admirablement bien. C'est vrai aussi que les Français sont des gens particuliers, il faut les connaître, il faut savoir comment les prendre. C'est un pays bizarre, peut-être que si je n'étais pas Français, je nous détesterais, les Français. Comme je suis Français, je nous excuse beaucoup et je nous aime bien, voilà.
Il y a des limites, est-ce qu'on se dit parfois, bon, ben ça, on ne peut pas le faire.
Oui, il y a des limites, mais chacun s'impose sa propre limite. C'est la force d'un pays démocratique d'un pays de liberté, c'est que chaque individu s'impose ses propres limites. Alors nous avons des limites différentes. Patrick, Sébastien a des limites à lui, Laurent Ruquier a des limites qui lui sont personnelles, moi j'ai les miennes, et ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des limites qui sont différentes et qui sont variables.
Ils sont liées à votre personnalité. Ils sont
complètement liées à la personnalité. Moi, je... j'ai plutôt envie et je m'amuse plutôt à travailler en trois bandes qu'en frappant la rouge directement ou la blanche directement. Donc j'aime bien le paquet bien enveloppé. Il y a des gens qui l'enveloppent moins bien, mais ils ont le droit, c'est leur problème. Tout ça est une question de style et une question de personnalité. Ce qui est très très désagréable, ce serait que quelqu'un nous dise « voilà la limite ». Ça, c'est inadmissible. Je crois pas qu'on soit beaucoup à pouvoir accepter ce genre de choses. Mais à partir du moment où nous imposons des limites, après tout, on peut considérer que les limites de l'autre sont ou trop restreintes ou trop larges. Mais c'est son problème et c'est pas le problème de ceux qui le critiquent.
Écoutez, on m'a affirmé avoir vu à la préfecture de Quimper un CRS couvert de purin, des pieds à la tête, une boule de purin, se jeter sur un autre CRS, crier les gars, j'en tiens. Et le mettre dans la bétaillère. C'est vous dire que ça a été affreux, c'est pas difficile. Affreux. D'ailleurs, il est passé en conseil de discipline parce qu'ils aiment pas ça. Hein. C'est un corps d'élite. Et le colonel qui présidait ce conseil lui a dit, bon, admettons qu'en effet, dans l'état où vous étiez, vous ayez pu, à la limite, confondre votre camarade avec un cochon. Mais quand il vous a crié, Marcel, arrête de faire le con, c'est moi, Antoine, vous auriez dû vous douter de quelque chose, non? Et l'autre a répondu, c'est cru que c'était une ruse.
Les archives du rire.
Il y a une femme que l'on doit vous présenter ici dans la famille des chansonniers. Oh, il y en a eu plusieurs, mais elle a été la première. Anne-Marie Carrière. Dans une émission de Laurent Ruquier, Jean Amadou avait dit que son grand mérite à Anne-Marie Carrière est d'avoir su faire sa place dans ce monde un peu macho et presque exclusivement masculin des chansonniers. Anne-Marie Carrière ne parlait pas spécifiquement de l'actualité, mais elle parlait bien des hommes qu'elle connaissait par cœur, dit-elle, parce que tous se ressemblent un peu. Comme elle me le disait dans cette interview réalisée chez elle à Paris, à deux pas du Sacré-Cœur dans son somptueux appartement qui dominait la ville lumière.
Anne-Marie Carrière, bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Vous êtes un guide vivant de l'homme, on peut presque dire vous connaissez les hommes à fond, vous en avez fait le tour sur scène en tout cas.
Mais on n'a jamais fait le tour des hommes, vous savez, c'est me prêter une vie de courtisane que je n'ai pas eue. Mais enfin, il est certain que quand on en connaît deux ou trois, on les connaît tous. C'est toujours ce que j'ai dit aux femmes, parce que les hommes sont quand même, se ressemblent. Enfin, ils ont les mêmes défauts, en tout cas.
Je n'en parlerai pas de cela parce que je suis devenue indulgente, mais il y a quand même des hommes, quand on y a goûté une seule petite fois, on devrait pouvoir crier aux camarades plus jeunes « Hé, fillette, pas par là, le service est un peu défectueux. » Toutefois, un guide de l'homme et du meilleur, il était temps de le faire. Alors, on a mis en commun nos meilleurs souvenirs, courageusement. On a eu raison. En bavardant, j'ai aperçu qu'effectivement, un tas de messieurs qui couraient les rues, fort mal connus, méritaient en réalité 1, 2, 3, 4 étoiles peut-être, ces étoiles illustrant leur réussite sociale ou leur pittoresque. Mais enfin, un homme, Dieu merci, ça n'est pas seulement une réussite sociale et un pittoresque. Un homme, ce sont des qualités mâles et viriles. Un homme, c'est une virilité, c'est important la virilité. Il n'y a qu'à voir l'importance qu'il y accorde, ça doit être très important. Hein, vraiment.
Quand j'ai commencé ce métier, je cherchais un créneau qui soit un créneau féminin. Et pendant quelque temps, j'ai dit des choses poétiques. Et puis un beau jour, j'ai écrit quelque chose sur l'homme idéal qui s'appelait l'éléphant blanc. Mais vraiment, il y a de ça à 40 ans. Et où je disais que l'homme idéal n'existait pas, ou alors que c'était un animal mythique, comme l'éléphant blanc. Personne n'a jamais vu d'éléphant blanc. Où je disais, à vrai dire, l'homme idéal, c'est quelque chose de... c'est gris clair, et puis on le peint en blanc, enfin, c'était la fin du sketch. Et en disant ça, je me suis aperçue que ça plaisait beaucoup. Et je me suis aperçue que le créneau par lequel je pourrais plaire aux femmes, parce qu'il faut plaire aux femmes dans ce métier d'abord, c'était de dire des choses objectives, sans méchanceté, sans acrimonie, sur les hommes. Ce que j'ai fait pendant... Maintenant, il va y avoir 45 ans.
Je vais vous parler d'un homme infiniment plus répandu que tous les autres, peut-être. Enfin, d'un homme qui a des défauts. Et un défaut dont les femmes se méfient. Je voudrais vous parler, disons-le tout net, du coureur de jupons. Et je vais vous en parler avec beaucoup d'indulgence, parce que j'ai réfléchi, c'est un pauvre mec, vous savez, le coureur de jupons. Mais si, c'est ce pauvre mec qui ne peut pas dans la vie voir passer une femme sous son nez sans... Et ça n'est pas de l'asthme. On a peut-être tort de juger sans douceur cet homme assez courant qu'on appelle un coureur. Le coureur de jupons tout d'abord est à craindre, mais en réfléchissant, je crois qu'il est à plaindre. La vérité que trop souvent nous nous cachons, c'est que c'est pas sa faute, c'est celle de son cochon. Je m'explique. Un dicton populaire répète à mon oreille, tout homme a dans son cœur un cochon qui sommeille. Bon, alors, l'affreux coureur, pouvons-nous le blâmer? C'est le pauvre monsieur dont le cochon dort jamais.
Le chansonnier, proche du journaliste, Pierre Douglas en sait quelque chose puisqu'il commence sa carrière de journaliste en 1966 sur France 3 à Limoges, où il présente le journal télévisé régional. En juillet 1970, il entre à Europe 1 en tant que reporter, puis il rejoint RTL en 73. En janvier 1977, il entre au service politique de TF1 et en juillet 1977, à la suite de sa rencontre avec Thierry Leluron, il quitte le journalisme et fait ses débuts sur scène. Rencontre au Caveau de la République avec Pierre Douglas. Entre deux de ses spectacles, oui, puisqu'après mes questions, il partait encore faire quelques imitations et son tour d'humoriste au Don Camillo.
Moi qui étais journaliste pendant quelques années, et Dieu sait si j'ai été heureux d'être journaliste, je ne le regrette pas du tout d'avoir quitté cette profession parce que je suis content d'être en face de vous ce soir. Si j'étais encore journaliste, je suis sûr que mon rédacteur en chef m'aurait interdit de venir vous raconter tout ce que je vais vous dire. Mais j'étais content d'être journaliste, mais au début, je ne savais pas que c'était un métier où il fallait faire preuve d'imagination. Je croyais que le métier de journaliste était simplement le métier de quelqu'un qui doit observer, qui doit regarder et ensuite qui doit raconter ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu, ou même les deux s'il est vraiment un observateur, mais sans imagination, c'est-à-dire sans commentaire personnel. Eh bien, je me suis aperçu que le métier de journaliste, c'est aussi un métier qui demande de l'imagination.
Pierre Douglas, bonjour.
Bonsoir.
Vous faites un métier, vous êtes chez les chansonniers, mais vous faites un métier de journalisme et c'est un métier que vous connaissez bien. Moi, je me souviens de vous avoir vu au journal, à la télévision. Et tout d'un coup, lorsque j'ai vu sortir votre disque, je me suis dit, est-ce bien le même? Et je me rends compte aujourd'hui que vous faites toujours le même métier, mais cette fois-ci en amusant les gens.
Ben écoutez, vous me faites plaisir et j'oserais dire que vous avez parfaitement résumé... La situation de ma carrière, puisque c'est vrai que j'ai été journaliste pendant 10 ans et je n'étais pas connu comme journaliste, puis je me suis fait connaître après comme chansonnier, mais c'est vrai que je fais un travail de journaliste. Ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce que c'est vrai que je fais un travail de journaliste. Je lis les journaux 2 à 3 heures par jour, j'adore ça, et je m'amuse à faire une revue de presse tous les soirs, dont je modifie certaines informations un soir sur deux, au fil de ce qui se passe. Et c'est vrai que le chansonnier fait un travail de journaliste, puisque finalement, il traite l'information avec toute la liberté de son humour, de son talent s'il en a, de son efficacité, de son esprit. Mais c'est vrai que c'est du journalisme complètement libre. C'est formidable. Il n'y a pas de censeur, il n'y a pas de rédacteur en chef. Là.
Alors voilà, cette dépêche, telle que je l'ai trouvée, sur les téléscripteurs de l'agence France Presse. Donc c'est sérieux. Ouais. Il y avait marqué sur cette dépêche, écoutez bien mes enfants, hier, Madame Duchemin, une mère de 3 enfants, domiciliée à Savigny-sur-Orge, a failli mettre le feu en faisant sauter des crêpes. Il n'y a eu que peu de dégâts. Et le lendemain matin, après avoir lu cette dépêche, je me suis dit, ce matin, j'ai lu cette dépêche hier sur Madame Duchemin, je vais faire une revue de presse pour voir si quand même les journalistes ont vraiment de l'imagination et s'ils en ont parlé. Alors j'ai commencé par... L'Humanité, là, au hasard, vous voyez, ils sont classés dans un ordre. Bon, alors j'ai... Bon, au hasard, je suis tombé sur l'Humanité, et j'ai cherché dans la page des faits divers, et j'ai trouvé l'article suivant, sur Madame Duchemin. C'est encore un drame de la misère sociale qui a éclaté hier soir dans la banlieue ouvrière. Dans cet immeuble... Je n'invente rien, je lis... Dans cet immeuble insalubre, où elle vit entassée... La famille Duchemin n'avait pour tout repas qu'un peu de farine et un quart de beurre. Malgré tout, pour fêter le 18e anniversaire de l'adhésion de son mari à la CGT, Liliane Duchemin a décidé de faire des crêpes. Malheureusement, la pauvre femme, épuisée par sa longue journée de travail dans une multinationale qui l'exploite, a laissé échapper la vieille poêle brûlante de ses mains crevassées. Grâce à l'aide de ses voisins, l'incendie a été maîtrisé. Encore un bel exemple de solidarité entre les travailleurs, Mais quand cessera-t-on enfin d'affamer la classe ouvrière? À quand la semaine de 24 heures?
Les archives du rire.
Ainsi donc, cette émission touche à sa fin. Elle était consacrée aux chansonniers, de ceux qui nous offrent un regard satirique sur l'actualité. Aujourd'hui, ce terme n'existe presque plus. Le caveau de la République est devenu LE République. Mais cette spécialité typiquement française existe quand même toujours, avec des humoristes tels que Christophe Alévèque, Stéphane Guillon, tous les jeunes chroniqueurs de la télé et de la radio qui continuent de nous apporter un regard différent sur l'actualité. Parce qu'elle n'est pas toujours rose, pas toujours agréable à consommer et qu'il faut savoir la pimenter un peu pour la faire passer. Et comme nous le disait Jean Amadou dans cette émission, chacun a réellement le droit de le faire à sa manière. Vous avez entendu Martial Carré, Edmond Meunier, Maurice Orgue, Laurent Ruquier, Jacques Maillot, Jean Amadou, Anne-Marie Carrière et Pierre Douglas rencontrés à Paris au Caveau de la République et à Genève au Grand Casino entre 1992 et 1994. Le sens de la dérision est un formidable joyau. Il faut donc savoir le préserver. Au revoir et à bientôt.